Vous êtes sur RTL.
Il est 18h. RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. C'est parti pour 2 heures d'infos donc avec vous et avec l'ensemble de la rédaction. Évidemment, ce soir à la une, le procès du siècle s'est ouvert. Le procès des attentats du 13 novembre 2015. 1800 parties civiles, 20 accusés. Voici venu le temps de la justice, le temps aussi des premières provocations, des premiers cris de Salah Abdeslam dans le box. Le terroriste affirme être traité comme un chien et en appelle à Allah. Alors comment les rescapés, les victimes ont vécu cette journée tant attendue, tant redoutée également? Nous poserons la question à Arthur Desnouveaux, ce survivant du Bataclan sera notre invité dans un quart d'heure. Les autres titres de l'actualité maintenant à suivre dans votre journal. Marion Calais, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. À la une, à Salon de Provence, des trafiquants sans scrupules et des enfants traumatisés après des tirs de Kalachnikov sur un point de deal à l'heure où ils sortaient de l'école. Dans ce journal aussi, Éric Zemmour et son calendrier politico-judiciaire. Et une lettre à Emmanuel Macron. Information RTL d'anciens auxiliaires afghans de l'armée française dénoncent l'abandon de certains des leurs en Afghanistan. Les courses, dans le Quintet Plus à Pornichet, il fallait jouer le 3, le 2, le 15, le 13 et le 11.
Dans un quart d'heure, cap sur l'Angleterre. En ce moment, jusqu'à 800 migrants par jour traversent la Manche au péril de leur vie. Conséquence, tension entre Londres et Paris. La brigade RTL et notre reporter sur les plages du Pas-de-Calais vont tout vous expliquer. Dans une demi-heure, les dessous de l'actu. Dans les coulisses de la foire aux idées du gouvernement, Emmanuel Macron a demandé à ses ministres 3 idées chacun à mettre en œuvre dans les mois à venir. À suivre aussi, laissez-vous tenter dernière avec une info RTL. Bientôt une vente aux enchères des meubles, des objets de Karl Lagerfeld. Vous pouvez donc commencer à économiser. À 18h40, on va défaire le monde. 20 minutes d'actu sous un autre regard, plus inattendu, un regard affûté, celui de Cyprien Signy et sa bande. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Le menu.
Ce soir, vous découvrirez comment les renseignements ont changé leur méthode de travail depuis le 13 novembre. Et puis on vous parlera aussi d'une primaire écolo qui ne fait pas lever les foules et de Britney Spears en français dans le texte.
À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet, du débat, de la discussion bien entendu autour du procès des attentats. Et puis tout au long de l'émission, des points réguliers sur la météo avec vous, Peggy Broche, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
La tendance.
Un temps orageux demain du sud-ouest au nord-est. Attention parce qu'on a actuellement 32 départements en vigilance orange aux orages.
On vous retrouve dès la fin du journal.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Il a donc été au cœur de cette première journée d'audience à la cour d'assises spéciale de Paris. Les regards plus que jamais tournés vers Salah Abdeslam.
Oui, premier débat et premier coup d'éclat. Cindy Hubert, vous avez suivi cette audience pour RTL, marquée dans un premier temps par une prise de parole glaciale du principal accusé.
Oui, le président lance l'appel. Levez-vous, monsieur Abdeslam. L'accusé se lève. Toute la salle le scrute à la recherche du moindre indice dans son apparence qui pourrait laisser espérer un changement d'attitude. Des cheveux mi-longs, une barbe fournie qui dépasse de son masque. La voix de Salah Abdeslam résonne soudain dans la cour. Tout d'abord, je tiens à témoigner qu'il n'y a pas d'autre divinité à part Allah. La salle frémit. Le président garde son calme. Votre métier? J'ai délaissé toute profession pour devenir un combattant de l'État islamique. J'avais noté intérimaire, réplique le président. Cette fois, ce sont des rires qui fusent dans la salle. Mais ces quelques mots de Salah Abdeslam laissent un goût amer aux victimes. J'avoue que je l'ai un peu insultée du fond de la salle, murmure l'une d'elles. Elle a perdu son enfant sur les terrasses.
Salah Abdeslam qui, ensuite, il y a quelques instants à peine, Sydney, après le malaise d'un autre accusé, vient de sortir de ses gonds.
Oui, diatribe sur ces conditions de détention. Ici, c'est très beau dans la salle, il y a des écrans plats et tout, mais il faut voir comment c'est derrière, hurle Salah Abdeslam. Ça fait plus de 6 ans que je suis traité comme un chien et je dis rien parce que je sais qu'après la mort, je serai ressuscité. Ceux qui espéraient encore quelque chose d'Abdeslam, les familles, les rescapés, sortent sonner ce soir.
Un compte rendu d'audience signé Cindy Hubert pour RTL.
La première journée de procès sur laquelle on va revenir dans un quart d'heure avec notre invité Arthur Desnouveaux, rescapé justement du Bataclan. Il était dans cette salle d'audience aujourd'hui.
Des tirs de Kalachnikov à l'heure du goûter à Salon de Provence hier, sortie d'école pour le moins mouvementée. Étienne Baudu, vous êtes dans ce quartier populaire des Canourgues où des trafiquants ont tiré en l'air pour remettre la main sur un point de deal. Et 24 heures après, certains des enfants sont encore très marqués.
Oui, c'est le cas du fils de Mourad. Le petit de 6 ans a été confiné dans sa classe et il a vécu la bousculade quand les enfants, mais aussi les parents, sont rentrés dans l'école pour se mettre à l'abri. Son père, tente depuis hier soir de répondre à son fils tout en essayant de le protéger.
Déjà tout à l'heure il parlait, j'ai dit non, j'ai changé le sujet exprès, comme ça on parle pas de ça. Je sais, mais ça fait deux fois qu'il pose la question. Papa, on attendait hier. Tatatatat. Imagine, c'est tatatat, c'est deux fois ou trois fois, c'est beaucoup. Hein. J'ai dit oui, mais c'était loin.
Il aurait pu y avoir une balle perdue. Enfin,
oui, là, c'est catastrophique. Hein.
Il faut dire que la scène a de quoi vous glacer le sang. Le point de deal est juste en face de l'école, de l'autre côté de la rue. Hier, c'est un homme apparemment seul qui serait venu intimider les occupants du lieu dans une guerre de territoire. Il aurait, semble-t-il, vidé un chargeur de Kalachnikov en l'air. Jawida, la cantinière de l'école, a eu aussi très peur.
On était tous confinés, les petits dans les classes, les mamans pleuraient parce que les parents aussi sont rentrés. On était tous par terre. Alors on était obligés de surveiller les petits, de les mettre en confiance, les parents aussi. Jusqu'à que voilà, ils ont mis de l'ordre, 5h30.
Et depuis, les autorités ont réagi, Étienne ?
Oui, oui, immédiatement. Les policiers sont arrivés en nombre hier soir et ce matin, ils étaient encore présents pour effectuer les constatations. Le maire, Nicolas Isnard, a lui décidé de détruire sur le champ, sans attendre, la dalle de béton sur laquelle s'étaient installés les dealers. Des arbres aussi devraient être coupés, ceux derrière lesquels les transactions s'effectuaient.
Étienne Baudu, depuis Salon de Provence, pour RTL.
À Marseille, pas de lien entre les deux fusillades de la nuit dernière. Selon le parquet, elles ont fait deux morts, dont un SDF de 25 ans, dont le décès ne serait pas lié à des trafics. À chaque féminicide, les mêmes interrogations sur le suivi des conjoints violents à Carmaux, près d'Albi. Un trentenaire a été placé en garde à vue après s'être accusé du meurtre de sa compagne, et ce alors qu'il avait été arrêté à deux reprises ces deux derniers mois pour violence conjugale.
Les indices s'accumulent et c'est aujourd'hui l'avocat d'Éric Zemmour qui a déposé un caillou de plus sur la route de la présidentielle.
Le polémiste était convoqué aujourd'hui au tribunal pour avoir qualifié les migrants mineurs de voleurs et d'assassins sur CNews, mais son procès a été renvoyé au 17 novembre. Les calendriers judiciaires et politiques seront intimement liés, assure l'avocat d'Éric Zemmour, Maître Pardo.
Moi, j'avais demandé un renvoi après le 24 avril. Pourquoi ? Parce qu'il y a une probabilité, je pèse mes mots, qu'Éric Zemmour soit candidat à l'élection présidentielle et je ne voulais pas qu'une audience vienne perturber une campagne présidentielle. Je vais examiner les possibilités de recours parce que quand il y a 38 parties civiles et notamment des départements, tous de gauche d'ailleurs, je trouve que la sérénité des débats exigeait que ça soit après l'élection présidentielle. Nous avons eu le 17 novembre, nous reviendrons pour demander que ça soit après l'élection présidentielle. Peut-être qu'au 17 novembre, Éric Zemmour sera candidat à l'élection présidentielle. Et à ce moment-là, je ne doute pas que le tribunal repousse après l'élection présidentielle.
L'avocat d'Éric Zemmour avec Guillemette Franquet pour RTL.
Éric Zemmour qui, dans le même temps, a été relaxé par la cour d'appel de Paris.
Il était poursuivi pour injures et provocations à la haine, pour avoir, lors d'un rassemblement politique, parlé d'immigrés colonisateurs et d'islamisation des rues. Les associations antiracistes qui s'étaient constituées partie civile se disent sidérées.
Allez, votre journal se poursuit dans un instant sur RTL avec cette info RTL. La lettre d'un ancien interprète afghan de l'armée à Emmanuel Macron. À tout de suite.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier.
RTL Soir.
Et RTL Soir continue la suite de votre journal avec Marion Calais à 18h09. Vous nous avez abandonné. Le message du président de l'Association des anciens auxiliaires afghans de l'armée française à Emmanuel Macron.
Information RTL, la lettre d'Abdul Razek Adel part en ce moment pour plaider la cause de plus de 150 personnes qui ont aidé la France en Afghanistan, mais qui encore aujourd'hui n'ont pas pu partir.
Il y avait 160 personnels civils qui ont été embauchés par l'armée française, interprètes, cuisiniers, chauffeurs et tout. C'est difficile pour nos collègues de passer par la frontière parce que de nos jours, les talibans, ils ont accès à systèmes biométriques. Ceux qui avaient déjà travaillé avec l'armée d'OTAN et tout ça, ils sont très faciles à identifier. La France, au moins, elle négocie avec les autorités des talibans pour qu'ils puissent sortir de la frontière pour sauver la vie et celle de leur famille. Nous nous sommes abandonnés par l'État français. Pourtant, nous sommes la première cible depuis de nombreuses années. Quiconque avait travaillé pour l'armée d'OTAN, ils sont considérés comme traîtres et infidèles, monsieur. C'est pour ça que j'ai rédigé une lettre, monsieur Macron.
Le président de l'Association des anciens auxiliaires afghans de l'armée française au micro RTL de Christophe Decroix. Et ce soir, le chef de la diplomatie américaine fait savoir que les États-Unis font tout ce qui est en leur pouvoir pour reprendre les vols d'évacuation d'Afghanistan. C'est une réforme indispensable, les mots de Jean Castex au sujet de la réforme de l'assurance chômage, application progressive à partir du 1er octobre. En revanche, pour la réforme des retraites, les conditions ne sont toujours pas réunies, dit le Premier ministre. ministre.
Et puis on a désormais davantage de détails sur l'hommage qui sera rendu demain, 16h30, hommage national à Jean-Paul Belmondo.
Oui, après l'hommage présidé par Emmanuel Macron, un hommage populaire aux Invalides qui ouvriront leurs portes au public vers 19h30 pour permettre au plus grand nombre de se recueillir devant le cercueil de l'acteur. Elle planche depuis une heure à présent. La commission de discipline de la Ligue de foot professionnel se penche en ce moment même sur les incidents qui s'étaient produits lors du match entre Nice et Marseille avec envahissement de terrain et coups échangés lors de cette soirée.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Et on va se réjouir avec le sport et les JO 2024 en ligne de mire. Le début aujourd'hui d'un Tour de France des drapeaux olympiques et paralympiques pour mobiliser les territoires autour de la compétition. Première étape tout à l'heure, c'était à Saint-Denis, en présence de nombreux enfants et aussi du patron du comité d'organisation des Jeux, Tony Estanguet.
Moi, les Jeux Olympiques, j'aime bien parce qu'il y a plusieurs sports. C'est cool parce que ça rapporte à la mairie, ça rapporte plus de choses. Tu gagnes une médaille d'or, quoi.
Même si tu vas pas gagner la médaille d'or, forcément, tu l'as quand même fait.
Vous sentez que les Jeux, ça représente quelque chose dans cette cité ?
Oui. Ah oui, il y en a besoin sur la ville de Saint-Denis.
Ça va booster la ville et améliorer les équipements et donner une image du sport dans l'éducation.
Et c'est un territoire qui est plein d'énergie. Et ça va être vraiment le cœur des Jeux pour les trois prochaines années. Donc il fallait que cette tournée des drapeaux, elle commence ici à Saint-Denis.
Sept disciplines à accueillir au total pour ces Jeux 2024 en Seine-Saint-Denis.
Et des propos recueillis par Jean-Michel Rascol. Ils ont de l'énergie à revendre, effectivement, les habitants de la Seine-Saint-Denis. Merci Marion, on vous retrouve tout à l'heure. Le temps maintenant, Peggy, comme souvent, après les grosses chaleurs, les gros orages, 32 départements d'alerte hein, quand même.
Hein. Exactement, et ça concerne les régions entre l'Occitanie et l'Île-de-France. Là, actuellement, les orages sont sur le nord de l'Aquitaine et vers le Limousin, mais ça se décale lentement vers l'est. Et les régions entre l'Occitanie et l'Île-de-France seront concernées par de fortes pluies, également toute la nuit. Et puis, on attend également sur l'Aude qui sera aussi en vigilance orange, orage et pluie, inondation. On attend beaucoup de pluie en deuxième partie de nuit. Donc, demain, l'Aude orageux sera des Pyrénées aux frontières du nord. De part et d'autre, un temps plus calme mais nuageux avec des averses à l'ouest, plus voilé à l'est. Et dans l'après-midi, peu d'évolution. Les averses orageuses vont se réactiver entre la Bretagne et le Cotentin et le ciel sera un peu plus lumineux avec moins d'averses entre le nord et l'Île-de-France. Les températures du coup elles seront en baisse, 22 à Brest, 21 à Reims, Nancy, Lyon, Toulouse, mais ça reste très agréable, 27 à Paris et 29 à Marseille.
Merci Peggy.
Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr.
Julien Cellier,
RTL Soir.
Et RTL Soir, 18h14, nous nous arrêtons maintenant sur ce coup de gueule, écoutez-le, de Boris Johnson.
La meilleure solution, c'est de les empêcher de quitter les côtes françaises. Nous dépendons beaucoup de ce que font les Français, mais clairement, le temps passe et le problème ne se résolvant pas, il va nous falloir employer toutes les tactiques possibles.
Le Premier ministre britannique très remonté aujourd'hui, vous l'entendez. Pourquoi ? Parce que des centaines de migrants ont quitté cette semaine notre littoral, direction l'Angleterre, par la mer, dans des embarcations souvent de fortune. Alors certes, le phénomène n'est pas nouveau, mais il semble désormais massif. Sur la seule journée de lundi, par exemple, 800 personnes ont réussi à traverser. Pour mieux comprendre ce dossier, avec nous sur RTL, à la fois notre correspondant dans le Nord, Franck Hanson, bonsoir.
Bonsoir.
Et notre correspondante à Londres, Marie Billon, bonsoir Marie.
Bonsoir.
Franck, je me tourne déjà vers vous. Vous vous êtes rendu sur le terrain cet après-midi pour RTL, le long des plages. Vous confirmez cette vague de départ ?
Oui, clairement, hein. Rien que ce matin, ils étaient une soixantaine d'exilés repêchés au large entre Calais et Boulogne, certains dans des petits bateaux de fortune. Depuis plusieurs semaines maintenant, facilités par les bonnes conditions météo et les bonnes et la mer qui est plutôt calme ici sur la côte d'Opale, ces tentatives se concentrent donc plus au nord, sur les plages du Boulonnais, notamment à Vimereux, et les riverains voient affluer ces migrants chaque nuit. Le maire Jean-Luc Duval est démuni.
Là, c'est la folie. Ce week-end, on avait plus de 300 migrants dans nos dunes. Ils essaient de passer par n'importe quel moyen. Calais est tellement sécurisé qu'ils se reportent sur nos côtes. Aujourd'hui, on est démunis. Là, ce que vous voyez, c'est ce qu'on trouve dans les dunes, les cartons avec les emballages des bateaux, des moteurs, des gilets de sauvetage. Ils laissent tout
Il faut savoir que les passeurs gardent les embarcations plus solides pour ceux qui payent le prix fort, jusqu'à 3 et 10 000 euros. Il y a souvent des femmes et des enfants dans ces traversées, toujours plus risquées, nous confirme Marguerite Combes de l'association Utopia 56.
C'est des gens qui, au fur et à mesure, peut-être qu'ils avaient des gilets de sauvetage la première fois, ils n'en ont plus après. Peut-être qu'ils avaient un bon bateau la première fois, et en fait, c'est des embarcations qui sont de plus en plus précaires. Et même nous, on a un téléphone d'urgence, et on reçoit maintenant des appels la nuit de plus en plus de personnes qui sont dans l'eau, qui n'arrivent pas à joindre les secours, alors qu'ils n'ont pas les numéros des secours.
Les gendarmes et les policiers ont renforcé les patrouilles pour dissuader ces candidats à l'exil sur la côte d'Opale en ce moment. Mais dès qu'ils sont en mer, les interventions s'avèrent plus compliquées.
Merci Franck pour vos témoignages concrets de terrain depuis le Pas-de-Calais. Conséquence, on l'a dit, le Royaume-Uni se fâche. Donc la brigade RTL va nous éclairer sur cette colère. On va vous poser trois questions, Marie Billon, à Londres pour RTL. Pour Londres, Paris ne fait pas le job.
Oui, voilà, Paris n'arrête tout simplement pas assez de migrants. Selon le ministère de l'Intérieur britannique, l'Hexagone ne stoppe en moyenne qu'un tiers des traversées. Et ça n'est pas assez, selon le gouvernement. Les Britanniques critiquent aussi les Français pour ce qu'ils estiment être leur manque de surveillance aérienne de nuit, le moment où les passeurs sont le plus actifs.
Alors, conséquence, Londres avait prévu de signer un chèque aux Français pour la surveillance des frontières. Ce chèque est désormais remis en cause.
Voilà, c'est la menace qu'a dû tendre Priti Patel à son homologue, Gérald Darmanin, lors de leur rencontre cet après-midi à Londres. En fait, en juillet dernier, les Britanniques ont accepté de verser environ 60 millions d'euros en plus à la France pour renforcer encore la surveillance de ses côtes. Sauf que Priti Patel, la ministre de l'Intérieur britannique, donc, estime que ce paiement, qui est prévu dans les prochaines semaines, est conditionné aux résultats. Et ce sont des attentes chiffrées, puisque Londres voudrait que Paris arrête 75% des traversées. Sans ça, Priti Patel menace de ne pas tendre le chèque, ou alors pas en entier. Mais la France, elle assure que cette rallonge n'a jamais été conditionnée.
Donc, affaire à suivre, et on suivra ça bien entendu avec vous, Marie Billon, pour la brigade RTL depuis Londres ce soir. On marque une pause dans RTL Soir et ensuite le procès du siècle vu de l'intérieur. Arthur Desnouveaux, rescapé du Bataclan, sera avec nous. Il a fait face aujourd'hui aux premières provocations de Salah Abdeslam, le terroriste qui affirme être traité comme un chien. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier. Julien Sellier,
RTL Soir.
Allez, vous écoutez RTL, et donc il y a 5 heures maintenant, le procès du siècle, comme on le surnomme, s'est ouvert, le procès des attentats du 13 novembre 2015. Le temps de la justice est donc enfin venu pour 1800 parties civiles qui ont attendu ce moment ces 6 dernières années. Alors, toutes les victimes n'ont pas assisté évidemment à cette première journée d'audience, mais certaines ont tenu à être là, à faire face aux accusés. Bonsoir Arthur Desnouveaux.
Bonsoir.
Vous êtes un rescapé du Bataclan, vous êtes le président de Life for Paris, association qui rassemble 650 victimes. Vous étiez justement dans cette immense salle du tribunal aujourd'hui. Vous teniez à être présent, c'était important, primordial.
Bien sûr, c'est pas une journée qui est très importante sur le plan judiciaire, mais c'est une journée qui symboliquement a une valeur forte. Ça fait des années qu'on attend ce procès, des années qu'on suit l'instruction, des années qu'en tant qu'association on participe à la préparation du procès. Et donc être là aujourd'hui, c'était reconnaître tout ce travail et voir enfin de visu tous ces efforts devenir réalité.
On imagine que les derniers jours ont été longs, éprouvants. Il y avait de l'angoisse, de l'attente, non, avant ce début de procès.
Oui, il y avait un mélange d'impatience et d'anxiété qu'il était difficile de dépasser. Et puis un nombre de sollicitations médiatiques du monde entier qui était complètement incroyable. Ça a été le sprint avant le début du marathon. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de gens ne sont pas venus, parce qu'il faut se ménager pour tenir sur ces 9 mois.
Pour la première fois, vous avez aperçu aujourd'hui de vos yeux les accusés. Est-ce que c'est un moment que vous redoutiez? Et comment vous l'avez abordé cet après-midi?
Non, je vous avoue que pour moi, les gens dans le box, c'est évidemment leur procès, mais c'est pas pour ça que moi je viens au procès, j'y viens pour la justice. Et donc, me retrouver dans la même salle qu'eux, ça fait partie de ce qu'on doit faire à un procès, mais c'était pas mon attente principale. J'avais ni fascination, ni crainte par rapport à ça.
Il y a eu cette première provocation là de Salah Abdeslam, ces mots « il n'y a pas de divinité à part Allah », avec ce ton assuré, ce dédain. On imagine que vous vous étiez préparé à une telle sortie.
Bien sûr, c'est une sortie qui est dans la lignée de ce qu'il avait pu faire à Bruxelles. Mais son ton n'était pas si assuré. Il a ensuite répondu sur sa date de naissance et son adresse. Et le président l'a très rapidement recadré en disant « oui, ça on verra après ». Et de la même manière, quand il a dit que son métier c'était d'être un soldat du califat, il lui a été rétorqué qu'il était marqué qu'il était intérimaire. Et donc je crois que ça montre plusieurs choses. Ça montre qu'il n'y a pas grand-chose à attendre de Salah Abdeslam et probablement des autres personnes dans le box. Qu'il y a beaucoup plus à attendre de la dignité de la justice. et que la première épreuve a été plutôt réussie pour le président.
Ça veut dire que, quelque part, vous n'attendez pas de réponses sur les zones d'ombre pendant ces 9 mois de procès ?
Non, je pense qu'attendre des réponses sur les zones d'ombre, ce serait se mettre dans une position où on a des attentes et donc on est débiteur vis-à-vis des gens dans le box. Et c'est pas du tout comme ça qu'on veut fonctionner. Moi, je ne veux rien leur devoir. Si j'apprends des choses, tant mieux. Mais ce que je suis venu chercher, c'est une expression d'une justice d'un pays démocratique qui sait faire face au terrorisme et pas des réponses des terroristes.
D'ici quelques semaines, vous, personnellement, vous allez témoigner devant le tribunal. Alors, c'est un choix là aussi, parce que certaines victimes refusent de prendre la parole à la barre. Ça, c'est nécessaire pour vous ?
Je ne sais honnêtement pas, si je n'avais pas été président d'association, si je serais allé témoigner.
Ouais.
Parce que ce que j'ai à raconter sur cette nuit-là, d'autres l'ont vécu. Et donc, j'aurais eu la certitude que ce que j'avais à dire était entendu, ce qui pour moi était important. En revanche, évidemment, ma position de président d'association m'a permis de voir des choses, fait rencontrer beaucoup de victimes. Et je pense que je peux tout à la fois synthétiser un certain nombre des choses qui ont été dites, mais aussi parler au nom de ceux qui, comme vous le disiez très justement, ont décidé de ne pas venir. Parce que décider de ne pas venir, c'est déjà être dans l'action, et c'est important que ce soit entendu.
Ouais. Quelle est la place des victimes, d'ailleurs, dans ce procès là de tous les superlatifs, où, vous l'avez dit, quelque part, les témoignages seront très puissants, mais il y a le risque de les voir se diluer au milieu d'autres témoignages similaires.
Je pense qu'on est face à une ligne de crête. Soit ils vont se diluer, soit ils vont tout étouffer. Et on va avoir 5 semaines assez complexes pour la suite du procès. Il faut vraiment que les victimes soient dans la bonne position, qui est celle de raconter ce qu'elles ont vécu, les conséquences, et que ça permette aux juges de se rendre compte de ce qu'est le terrorisme. D'ailleurs, peut-être au-delà des juges, à tous les Français. Pour autant, il ne faut pas que ça se transforme dans le procès pour les victimes. Ce n'est pas ça. C'est le procès des accusés fait par le droit français.
Mais est-ce que ça ne vous dérange pas, quelque part, qu'en vous demandant, quand le président de la Cour appelle à la dignité en ouverture, est-ce que vous n'avez pas la sensation qu'on vous demande de ne pas craquer, en quelque sorte, de ne pas aller sur le terrain de l'émotion ?
Ça me paraît important que le procès soit digne. Pour autant, c'est vrai qu'il ne faut pas du tout enfermer les victimes dans une espèce de dignité qui les empêche d'être elles-mêmes et d'être des individus. Parce que dans la reconstruction, il y a évidemment se sortir des chiffres, arrêter d'être une des 1700 parties civiles et être soi-même. Et que ça doit permettre et ça doit passer par le fait de ne pas être digne, si on veut. Et je crois qu'il y a un distinguo entre un président qui parle d'une justice digne et une injonction à dire que tous les témoignages de toutes les victimes doivent être dignes.
Arthur Desnouveaux, on l'a dit, ce procès va durer 9 mois. On a beaucoup entendu aujourd'hui parler de ce dispositif de sécurité XXL autour du tribunal. Est-ce qu'il y a encore de la peur chez vous aujourd'hui ? Est-ce que vous vous sentez menacé en allant témoigner ?
Pas vraiment en allant témoigner, mais je pense que comme tous les Français, je sais qu'un tel procès, en plus pendant une campagne présidentielle, ça relève le niveau de risque terroriste globalement. Et évidemment, quand on a été victime, on n'est pas forcément extrêmement lucide là-dessus. Et on a toujours tendance à penser que ça peut nous retomber dessus. Mais le dispositif de sécurité, lui, est très rassurant. Et encore mieux que ça, il est très fluide. Et donc, il permet d'être rassuré sans pour autant passer par des contrôles de sécurité sans fin.
Mais est-ce que ça veut dire que certains rescapés n'osent pas aujourd'hui venir témoigner ? Par crainte ?
Bien sûr. Bien sûr, la peur fait partie des raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas venir témoigner. Moi, j'ai eu beaucoup de questions pour savoir s'il était possible de ne témoigner qu'avec un prénom, que le nom ne soit pas prononcé, de savoir s'il était possible de témoigner à huis clos. C'est impressionnant de témoigner devant les terroristes, mais c'est aussi impressionnant de le faire devant la presse. Et ça fait partie des craintes des parties civiles.
Merci Arthur Desnouveaux. Vous, rescapé du Bataclan, président de Life for Paris, association qui rassemble 650 victimes, d'avoir été ce soir notre invité, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions en cette journée éprouvante, cette journée d'ouverture du procès des attentats du 13 novembre 2015. Merci d'avoir été ce soir notre invité sur RTL. On marque une petite pause sur cette antenne. Merci. Une petite pause sur cette antenne et ensuite RTL Soir va se poursuivre, bien entendu. Et dans les dessous de l'actu, on va vous emmener ce soir dans les coulisses du séminaire gouvernemental. Emmanuel Macron avait demandé à ses ministres de venir à l'Élysée avec chacun 3 idées neuves ce matin et visiblement le président a recadré ses troupes. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir
avec Julien Cellier.
RTL. Il est 18h30.
RTL Soir avec Julien Cellier.
Allez, bonne fin de journée. RTL Soir vous accompagne. Si vous nous rejoignez à l'instant, on refait un point sur les grands titres de l'actualité. Marion Calais.
Avec cette dernière minute, on apprend à l'instant que le CSA demande désormais aux médias de décompter le temps de parole du polémiste Éric Zemmour qui multiplie les petits cailloux et les signes sur une déclaration de candidature pour la présidentielle. Il n'y a pas grand-chose à attendre de Salah Abdeslam et cette première journée d'audience en a été la preuve pour Arthur Desnouveaux, parti civil, invité de RTL Soir il y a quelques minutes, alors que le principal accusé, Salah Abdeslam, a invoqué Allah et clamé que les accusés étaient traités comme des chiens lors de cette première journée d'audience. Et puis un hommage solennel et un hommage populaire rendu demain à Jean-Paul Belmondo. Après la cérémonie présidée par Emmanuel Macron, les Invalides ouvriront leurs portes au public à partir de 19h30.
Merci Marion, bonne soirée. Le temps maintenant, Peggy, avec une trentaine de départements quand même qui sont placés en alerte aux orages ce soir.
Exactement, vigilance orange aux orages pour 32 départements entre l'Occitanie en remontant vers l'Île-de-France. En notant que l'Aude est en vigilance orage et pluie, inondation, parce qu'en deuxième partie de nuit, on attend jusqu'à 2 mois depuis en quelques heures vers ce département. Demain, l'axe orageux sera entre les Pyrénées et les frontières du Nord. Les orages seront encore bien présents avec de fortes pluies toujours sur l'Aude en matinée. À l'arrière, donc à l'ouest, un ciel de traîne entre nuages éclaircis, quelques averses. À l'avant, donc à l'est, un ciel voilé. Peu d'évolution l'après-midi, des averses qui prendront à nouveau un caractère orageux entre la Bretagne et le Cotentin, des orages partout ailleurs sauf sur l'Est, et puis il y aura un peu plus d'éclaircies pour le côté positif entre le Nord et l'Île-de-France. J'ai juste dit un peu plus. Les températures, elles seront en baisse. 22 à 27 au Nord, 24 à 29 au Sud.
Merci Peggy.
RTL Soir, les dessous de l'actu.
Allez, 18h32, chaque soir, vous le savez, à cette heure-ci, dans les dessous de l'actu sur RTL, on vous emmène dans les coulisses des titres qui font la une. Aujourd'hui, les coulisses du séminaire gouvernemental. C'était en quelque sorte la foire aux idées ce matin à l'Élysée. Bonsoir Vincent de Rosier.
Bonsoir.
Chaque ministre devait arriver avec 3 idées, avec des projets pour défendre le bilan présidentiel. Est-ce que ça a phosphoré autour de la table ?
Oui, et tout le monde voulait parler le premier. Je vais vous raconter une anecdote. Il existe un petit groupe WhatsApp avec pas mal de ministres dedans. Et depuis quelques jours, chacun tente de s'imposer pour parler dans les 5 premiers, raconte un conseiller. Pourquoi ? Parce que tout le monde a peur de se faire piquer sa proposition, sa punchline ou son conseil au président Macron. Un peu comme à l'école, quand vous vous retrouviez debout, interrogé tout seul au tableau et que vous n'aviez rien à dire, c'est dur. Mais ce matin, selon un participant, chacun est resté dans son couloir et sur ses sujets de prédilection.
Bon, on l'a compris, Emmanuel Macron voulait du neuf. Est-ce que ça a fonctionné ?
Alors, est-ce que l'idée géniale, inédite et faisable en 2 semaines a été trouvée ce matin ? Je vous donne la réponse, c'est non. Pour faire aboutir une loi, il faut au minimum entre 7 et 9 mois. C'est ce qu'a rappelé le ministre Marc Fesneau, histoire de casser un peu plus l'ambiance. Ce qui n'a pas empêché les ministres de parler, et longuement. Il y a les faillots qui ont 50 idées, résume un conseiller, en visant Bruno Le Maire, Elisabeth Borne, Gérald Darmanin ou Amélie de Montchalin. Barbara Pompili, elle, a vanté le bilan écolo du président. Un ministre a conseillé au chef de l'État de mettre en avant le bilan en matière de pouvoir d'achat, notamment les mesures pour les soins optiques ou dentaires. Un autre, enfin, a expliqué que les Français étaient groggy, lassés et qu'il ne fallait surtout plus les brusquer.
Alors, ce qui était notable aussi ce matin, c'était le ton, visiblement, du président Vincent. Il semblait assez remonté.
Oui, et ceux qui avaient le sourire autour de la table l'ont perdu assez vite. L'humilité doit être général, y compris autour de cette table, a lancé le président en introduction. Le ton était très directif, raconte un participant, et Jean-Michel Blanquer, par exemple, s'est fait tout petit lorsque le président a expliqué que les Français attendaient beaucoup mieux que des querelles inutiles comme sur l'allocation de rentrée scolaire. Emmanuel Macron a enfin demandé à son gouvernement de se bouger, d'aller sur le terrain et de défendre son bilan dès maintenant, autrement dit, de commencer la campagne tant qu'il n'est pas officiellement candidat.
Les indiscrétions RTL de Vincent de Rosier dans les dessous de l'actu.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu. Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.
18h35.
Laissez-vous tenter, dernière.
Allez, un peu de légèreté maintenant dans RTL Soir. Place à Laissez-vous tenter, dernière. Vous connaissez le principe. Chaque soir, la joyeuse bande de LVT vous livre ses bonnes idées. Ciné, musique, expo, théâtre et même vente aux enchères. Bonsoir Monique Younes.
Bonsoir.
Avec qui plus est une info RTL ce soir parce que vous nous révélez en avant-première une vente exceptionnelle, celle qui va disperser le mobilier et quelques affaires privées de Karl Lagerfeld, le couturier décédé en février 2019.
Oui, et un an et demi après sa mort, l'inventaire de ses 6 demeures françaises et monégasques est terminé, quelques 4000 pièces recensées, et c'est une sélection de 1000 lots qui sera dispersée par Sotheby's à partir du 3 décembre prochain à Monaco, Paris et Cologne.
Alors, que va-t-on pouvoir acheter ?
Alors d'abord, noblesse oblige, le grattoir de Choupette, la fameuse chatte de Karl, hein, qui n'est pas morte de chagrin, comme certaines rumeurs l'ont laissé croire. Il y a aussi le tapis de Choupette, la corbeille de Choupette. Chacune de ces pièces de collection sont estimées à une centaine d'euros. Dans les prix les moins chers, il y a aussi ces coupe-papiers en argent, ces stylos, ces valises Goyard. Et au passage, accessoirement, 3 Rolls-Royce, estimés autour de 350 000 euros chacune, mais sans Choupette à l'intérieur.
Il avait 3 Rolls, Lagerfeld.
Ben, entre autres voitures. Vous savez, la vente aux enchères, Lagerfeld nous révèle son côté accumulateur. Il n'achetait pas 10 nappes, mais une centaine de nappes. Il n'achetait pas un service de table, mais 10. On découvre aussi, grâce à cette vente, l'évolution de ses goûts. Dans les années 70, par exemple, Lagerfeld ne se meublait qu'en art déco. Mmh. Mais Lagerfeld a aussi beaucoup aimé, à une époque, le mobilier 18e. Et à partir de l'an 2000, il a collectionné des designers contemporains, comme les frères Bouroulec ou Martin Zekeli, qui a imaginé l'immense bureau blanc de 3 mètres de large en corian et résine, sur lequel travaillait Karl Lagerfeld dans son appartement du Quai Voltaire à Paris.
Et alors, est-ce que la vente va aussi comprendre des accessoires de mode?
Alors, il n'y aura pas de bijoux, mais une vingtaine de vestes signées par les grands couturiers. Mais peut-être que ce qui va vous émouvoir, ce sont les meubles. Alors, le plus spectaculaire étant son lit 18e avec des plumes d'autruche et des draperies jaunes.
Des plumes d'autruche, d'accord,
oui,
très bien.
Oui, oui, voilà. Il est estimé à 20 000 euros. Et le clou de la vente sera peut-être sa chambre d'enfant. Imaginez-vous qu'il l'avait reconstituée dans sa maison à Louveciennes, dans les Yvelines, avec son petit secrétaire, son petit lit, sa petite chaise 18e. Je vous en reparlerai plus en détail début décembre, à la veille de la vente florilège de l'univers de Karl Lagerfeld par Sotheby's à Paris, mais aussi à Monaco et à Cologne.
En tout cas, grâce à vous, on est au courant. Voilà, déjà, on peut commencer à économiser pour début décembre, et cette vente aux enchères exceptionnelle, donc des affaires privées et du mobilier de Karl Lagerfeld, c'était une info RTL. Merci beaucoup Monique Younes.
Merci.
Et on précise aux auditeurs qui nous écoutent qu'on vous retrouve dès demain, 9h-9h30, pour Laissez-vous tenter la quotidienne, comme chaque matin, puisque vous allez recevoir Vanessa Paradis demain matin. Ça, c'est un événement. Elle fait ses grands débuts au théâtre. À demain. Allez, 18h38, la suite en chanson maintenant dans RTL Soir. On va défaire le monde jusqu'à 19h. La fine équipe, ça y est, se presse en studio. Cyprien Sini, Céline Landreau, Arthur Asquin, Laurent Tessier. Bonsoir les amis.
Bonsoir. On adore Vanessa Paradis.
Ben oui, je sais. Et Karl Lagerfeld des Choupettes aussi, j'espère.
Aussi, c'est un peu cher.
Très bien. Alors, dans un instant, entre autres, cette question. Depuis 2015 et les attentats, est-ce que notre renseignement a évolué, a progressé? Les réponses juste après ça, tout de suite.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.